Good Morning Business, le grand débrief.
Le grand débrief avec nos quatre invités, on en a oublié un, c'était Emmanuel Lechypre, bien sûr. Bonjour Emmanuel, merci de nous rejoindre. Benaouda Abdedaïm, éditorialiste BFM Business. Carole Juge Lewellyn, présidente et fondatrice de Jun. Et Mathias Bassino, directeur général France de Trade Republic.
On va commencer avec le tourisme, puisqu'on sort de l'interview de Dominique Marcel de la compagnie des Alpes. Je voulais vous faire réagir, Emmanuel Lechypre, là-dessus, parce que je sais que ça vous intéresse. Dominique Marcel dit, il y en a marre de parler que du luxe et de l'aéronautique quand on parle de la compétitivité de la France. On a le tourisme, la part dans le PIB est de 7 à 8%, et pourtant, on ne défend pas notre tourisme, on ne fait rien, on ne dit rien dessus.
Non, on fait rien, on dit rien. C'est sans doute à l'image de la France d'ailleurs le secteur qui gâche le plus son potentiel. C'est-à-dire que c'est à l'image du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui gâche le plus ses chances que la France. Il n'y a pas un secteur qui gâche le plus ses chances que le tourisme. On a tout pour avoir un secteur extrêmement performant et on trouve le moyen quand même d'avoir plus de touristes en nombre, par exemple, que les Espagnols et d'avoir moins de recettes touristiques que les Espagnols. Alors que les Espagnols, ils n'ont pas les sports d'hiver, ils font pas beaucoup de tourisme d'affaires, etc. Donc, on est quand même dans une sous-exploitation du secteur qui est absolument terrifiante. Ça n'intéresse pas les politiques. Citez-moi un ministre du tourisme digne de ce nom depuis 50 ans, il n'y en a quasiment pas eu.
Là, c'est dans le portefeuille d'Olivia Grégoire, aujourd'hui.
Oui, voilà, mais c'est-à-dire que c'est toujours dans le portefeuille de quelqu'un. Il faut remonter, je crois, à Françoise de Panafieux pour retrouver vaguement une ministre en charge.
Et c'était au ministère des Affaires étrangères.
Excusez, alors elle était même pas, elle était chargée quand même que du tourisme, globalement. Alors ça, il y a eu une parenthèse intéressante au moment où effectivement c'est au ministère des Affaires étrangères qu'on a regroupé tout ça. Mais si vous mettez bout à bout tout ça, le chiffre sur nos touristes soi-disant records, il est en grande partie bidon puisque vous avez déjà 8 millions de personnes qui viennent uniquement chez Disney. Disney qui est quand même le site le plus visité en France. C'est une réalité. Vous avez tous les gens qui traversent l'Europe pour aller de Belgique, d'Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal, qui sont considérés comme des touristes. On a un niveau de recette par touriste qui est très faible, avec une offre qui est d'une qualité extrêmement médiocre, si vous voulez, quand vous comparez aux standards internationaux. Donc, franchement, c'est un secteur...
Rhabiller le tourisme.
Non, mais je veux dire, comparer. Mais regardez le classement de la France dans tous les rankings qui sont faits au niveau international sur la qualité des prestations, sur la qualité de l'accueil, etc., etc. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous refaire le parcours du touriste étranger qui arrive à Roissy, et voilà. Donc, tout est comme ça. Tout est comme ça. L'Espagne, par exemple, vous arrivez à une montée en gamme sur les 20 dernières années qui est exceptionnelle, sur la qualité de l'offre, et avec des hôtels, par exemple, qui restent encore 20% moins chers qu'en France. Donc oui, il y a un vrai sujet sur la compétitivité du tourisme.
Carole, il y a parfois un gros atterrissage pour les touristes qui arrivent en France, quand ils voient la qualité de service à Paris, notamment.
Mais il n'y a pas qu'à Paris.
Mais pas que.
Non, pas qu'à Paris, mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais. En fait, c'est pas faute qu'il y ait de l'innovation. Evaneos, qui est quand même une des plus grosses startups dans le tourisme, et qui c'est une boîte française, donc il y a quand même des choses qui sont faites, surtout dans le milieu de l'innovation, pour tout ce qui va être touristique. Après, c'est évident, on sort de 2 années de Covid où finalement les gens ne voyageaient plus.
Mais c'est
les
pas la seule réponse. En France, on n'a pas suffisamment professionnalisé le tourisme. Souvent, ce sont des étudiants qui font la gueule, qui traitent les touristes.
Alors, je ne sais pas si on peut généraliser comme ça, mais je pense qu'on était quand même sur une dynamique assez positive. Enfin, moi, j'habite à côté du parc du Champ de Mars parce que j'ai 2 chiens, j'y vais tous les jours. On avait historiquement énormément de touristes. On en a quand même depuis 2 ans beaucoup moins. On a une opportunité en 2024 avec les JO qui vont être un gros afflux touristique. Et il y a des enjeux de sécurité, de Covid, mais il y a aussi des enjeux sur la performance touristique et sur la façon dont on va accueillir ces gens. Je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Non, mais il y a plein de sous-exploitations. Prenez par exemple un truc tout bête.
Emmanuel.
La France, c'est le pays au monde dans lequel il y a eu le plus de batailles. Le tourisme mémoriel, zéro. C'est-à-dire, c'est rien. C'est-à-dire, vous visitez vaguement des cimetières, etc. Vous repartez avec rien. Vous avez les mêmes cimetières aux États-Unis. Vous repartez, il y a les boutiques, vous repartez, vous avez dépensé 20, 30 dollars. Enfin, on fait rien. Le no-tourisme. Ah, bah non, on ne peut pas faire de pub, etc. Donc, c'est un secteur qui se développe, qui gagne énormément d'argent, qui a énormément d'emplois en Italie, en Espagne, en Slovénie, par exemple. En France, ça, c'est pas possible. Donc,
mais les gens, ils sont dans les parcs d'attractions, là. Parce que l'année des parcs d'attractions est colossale. Le parc Astérix va annoncer des chiffres de dingue. Vous allez aller faire Halloween à Disney, Mathias ?
Halloween, c'est à la maison avec les enfants.
Ah, ben vous n'allez pas participer au revenu du tourisme.
On va au parc Astérix demain en équipe.
Ah, bah voilà.
Il y a peut-être un sujet culturel aussi en France. C'est-à-dire que le tourisme, son principe de base, sa valeur fondamentale, c'est l'hospitalité. Et l'hospitalité en France, c'est quelque chose qu'on pratique, mais c'est pas une valeur particulièrement forte dans notre pays. On a d'autres pays qui ont une culture de l'hospitalité très forte. Donc la question, c'est est-ce que... Parce que moi, je pense toujours au mismatch entre l'offre de job et la demande de job. On sait qu'il y a besoin. Il y a besoin de salariés qualifiés qu'on peut rémunérer correctement aujourd'hui dans cette industrie touristique. Et on n'a pas les candidats. Donc peut-être faut-il modifier l'image de l'industrie du tourisme. Et en ce sens, en général, quand on parle de symbole en France, on commence par nommer un ministre dédié à ça, quoi. Donc avoir une meilleure image de l'industrie touristique auprès des Français déjà, et la valoriser. C'est le point de départ, à mon avis, pour avoir une bonne qualité de service aussi, quoi.
Mathias.
Et n'oublions pas que les trois quarts, enfin, je veux dire, les deux tiers du tourisme dans le PIB, c'est pas les étrangers, hein. Il y a cette obsession, mais c'est les Français qui vont faire du tourisme en France et qui sont aussi extrêmement mal accueillis dans les autres régions.
Mathias, l'actualité, c'est également les résultats dans le secteur de la tech aux États-Unis. Les résultats de Google, décevant. Alphabet a publié pour cet été la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis pratiquement 10 ans. Et c'est surtout la pub, en fait, qui inquiète.
Bien sûr, on a de manière générale des signaux négatifs dans l'économie. On sait que les commandes, par exemple, en Asie ont énormément baissé. On a tous ces signaux. Sur lesquels on pourra revenir, d'un affaiblissement économique mondial. Et on a évidemment le premier secteur qui pâtit, c'est la pub. C'est un grand classique dans ce type. On l'a déjà vu en 2008, on l'a déjà vu en 2012. Donc il n'est pas étonnant que le contexte ait généré ces résultats pour Google, avec un focus évidemment particulier sur YouTube. On a l'arrivée de TikTok aussi, qui a été quand même un grand chambardement. Alors, pas dans ma vie à moi, parce que je ne suis pas utilisateur, mais pour plein de gens, TikTok a été un chambardement considérable, et y compris dans l'industrie de la publicité. Donc,
il y a YouTube, il y a TikTok, mais il y a l'effet de change aussi. Hein. On voit des résultats avec un dollar fort qui impacte les résultats de la tech américaine.
Ah, je pense qu'il y a ça, mais il y a quand même de plus en plus de plateaux. Il y a deux cas de figure. Déjà, on en parle beaucoup, les startups qui sont quand même une grosse partie des gens qui vont faire de la pub en digital, etc., sur des plateformes de Google ou notamment sur YouTube, ont de moins en moins d'argent puisqu'elles lèvent moins d'argent et que les marges s'érodent, etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais il y a aussi des plateformes hyper innovantes. Tu as parlé de TikTok, mais il y a Twitch. Twitch, c'est le nouveau YouTube. Ce qui grève aujourd'hui la performance d'Alphabet, c'est principalement YouTube et les revenus publicitaires sur YouTube. Pourquoi ? Parce que les startups ont moins d'argent à mettre dedans, parce qu'il y a moins de gens qui y vont. Et ils vont où ? Ils vont sur Twitch. Twitch, c'est un réseau qui était réservé quand même principalement à tout ce qui va être gaming, streaming, etc., qui a fait la plus grosse audience française il y a 2 ou 3 semaines avec la rediffusion du Grand Prix de Squeezie. Donc on est dans un truc qui est complètement différent. On est en train de réinventer la façon dont les jeunes regardent la télé, puisqu'ils ne regardent plus la télé traditionnelle. Ils regardent Twitch et maintenant donc un peu moins YouTube. Donc c'est pas anormal. C'est la façon dont les modèles évoluent. Il y a toujours une gare après la gare, et aujourd'hui la nouvelle gare, c'est Twitch.
Emmanuel Lechypre.
J'adore cette phrase, il y a toujours une gare après la gare. Jusqu'à la gare Terminus.
Oui, et donc du coup, pour la tech américaine, Terminus ou pas ?
J'ai aucun avis là-dessus.
Aucun, très bien. Benahouda, j'imagine non plus. Non, mais il faut s'inquiéter. La question, c'est est-ce qu'on s'inquiète ? Est-ce que c'est un petit trou d'air ? Est-ce que c'est, comme le dit Carole, une époque qui se termine ? Comment vous voyez les choses, Mathias ?
Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur ce plateau ces dernières semaines, ces derniers mois. Les indicateurs économiques sont pas bons. C'est de partout, quoi. Donc, soit on regarde lucidement la situation et on s'apprête à entrer en récession si on n'y est pas déjà, et ça va aller avec la baisse des résultats d'entreprise, une période de trou d'air sur les marchés financiers, et ensuite une reprise, un redémarrage, etc. Un
apurement de l'économie. C'est très compliqué quand même dans la période. Et par rapport justement à ce que tu disais sur les changements structurels, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire la différence si les mauvaises performances sont dues à des problématiques de positionnement de modèle ou si c'est dû à des problématiques classiquement conjoncturelles. Et c'est là où tu fais pas le même pari financier sur une boîte qui a des difficultés conjoncturelles ou sur une boîte dont tu considères que le modèle n'est plus performant.
On va donner la parole à Benahouda Abdedaïm. Évidemment, la situation en Italie, Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil en Italie, dément qu'elle est fasciste. Elle dit que l'économie est sa priorité, elle veut réformer les aides, respecter les règles budgétaires, elle soutient l'Ukraine. C'est pas exactement ce qu'on avait entendu pendant la campagne.
Ah, les campagnes, c'est fait pour être enterré le jour où on est élu, de toute façon, quel que soit le pays, quel que soit le parti. Effectivement, elle est dans une volonté permanente depuis qu'elle est installée à son poste de présidente du Conseil d'envoyer le message qu'elle partage les valeurs communes de l'Occident, telles qu'elles sont actuellement. Encore une fois, dans le message qu'elle a adressé à Rishi Sunak, à son homologue britannique, elle parle de valeurs partagées, de liberté, de démocratie qu'elle entend développer avec lui. Elle redit de façon récurrente que l'Italie fait partie de l'Occident, que c'est le berceau de la liberté et de la démocratie. Elle a cité lors de son allocution, son premier discours pour son mandat devant le Parlement hier, Montesquieu, ce qui n'était pas le cas effectivement pendant sa campagne électorale, en disant que la liberté est le bien, est ce bien qui vous fait profiter de tous les autres biens. Effectivement, lorsqu'on entend certaines de ses déclarations concernant l'immigration massive au service du grand capital, des grands pouvoirs économiques et de la spéculation de George Soros pour imposer une diminution des droits et des salaires des travailleurs italiens, il y a un contraste saisissant, mais que les employeurs italiens ont décidé de saisir la balle au bon. Le président de la Confindustria, le principal mouvement patronal italien, a salué son discours hier devant le Parlement, avec l'idée que il y a moyen de canaliser ce gouvernement du bloc des droites, sachant que malgré tout, il y a les fondamentaux qui demeurent. Elle s'est attaquée à la politique de la Banque Centrale Européenne en s'inquiétant de la remontée très probable demain des taux d'intérêt.
Un peu comme l'avait fait Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps.
Tout à fait. C'est exactement la même tonalité, avec un peu moins, disons, les ficelles de l'expérience politicienne dans l'expression publique. Mais c'est exactement ce qu'elle a exprimé en expliquant que cette approche monétaire de la Banque Centrale Européenne était en train de remettre en cause, somme toute, les fondamentaux du plan de résilience, enfin le plan de relance italien, qui est le plus important à l'échelle européenne, parce que les retombées de ce plan européen, de ce fonds de relance et de résilience européen, représentent 3% du produit intérieur brut de l'Italie, ce qui est extraordinaire. Et donc, elle ne parle que d'ajustement, en allant vers des solutions qui était tournée vers la résolution des problèmes de la crise Covid, vers la résolution de la crise énergétique. Donc des ajustements, des amendements, mais certainement pas la révolution, en disant fondamentalement aussi que les souverainistes n'étaient pas au pouvoir en Italie, et donc on ne peut pas les tenir pour responsables de la situation.
Emmanuel de Chypre, elle peut surtout ne pas se fâcher avec la Commission européenne, hein. L'Italie a vraiment besoin du plan européen.
Oui.
Je crois que c'est 200 milliards.
Oui, sachant qu'on voit quand même ce combat se dessiner entre politique monétaire d'un côté, politique budgétaire de l'autre, la Banque centrale qui dit qu'il faut faire plus d'efforts côté rigueur budgétaire, et les États qui disent bah oui, mais il faut nous aider avec quand même des taux d'intérêt qui restent accommodants. Et ça va être une grande opposition, sachant que ce que je trouve différent aujourd'hui dans la situation, c'est que il y a eu beaucoup de crises où on subissait tous finalement le même météorite qui s'abattait sur nous. Par exemple, la crise financière de 2008, tous les pays étaient frappés de la même façon. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, chaque pays est dans une situation de grande faiblesse, mais pour des raisons qui sont relativement internes. L'Allemagne est faible pour des raisons qui lui sont propres, qui tiennent à son modèle énergétique, industriel, etc. L'Italie est faible aussi pour des raisons qui lui sont propres, qui ne sont pas nouvelles. Alors, je veux bien que le Royaume-Uni ce ne soit plus l'Union européenne, mais c'est quand même l'Europe près de chez nous, et ça a un impact sur nous. Et donc, la France, elle aussi, est quand même dans une situation financière extrêmement préoccupante. Donc, chacun.
Bah, ils ont tous un point commun, c'est qu'il faut quand même très attention à ce qu'ils disent pour les marchés, parce que c'est quand même très important de ne pas voir ces taux à 10 ans monter.
Exactement. Et c'est là où on est et c'est là où alors, c'est spectaculaire, on l'a vu en Angleterre, si vous voulez, le mismatch entre la politique budgétaire et la politique monétaire peut produire des catastrophes. Regardez encore une fois ce qui s'est produit en Angleterre quand l'annonce du plan colossal de baisse des impôts a été annoncée par la Première Ministre.
Et l'intervention en urgence de la BOE.
Et que la Banque d'Angleterre a dû ramer pour rattraper la situation. Donc je pense que dans les risques de crise majeure qu'on a devant nous, il y a ce mismatch entre politique budgétaire et politique monétaire.
Il nous reste 3 minutes. Je dois vous faire réagir sur un sujet. Ben Aouda Abdedaïm a le droit à un joker parce qu'il était déjà là hier autour du salaire de Mbappé. arrivée au PSG. Pour Bruno Le Maire, son contrat record de 630 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle car le joueur va payer plus d'impôts en France, donc on devrait tous s'en satisfaire. Carole Juge-Lewellyn, ça vous inspire quoi ces critiques sur les salaires des grands patrons? Vous aussi vous dites bah c'est cool, ils payent des impôts?
Bah, on en a parlé la semaine dernière. En fait, quand quelqu'un touche un salaire record en France, on paye record de charges patronales. Donc, c'est tout ça qui va en plus dans les recettes de l'État. Et en plus, l'avantage qu'on a sur les joueurs de football, c'est qu'ils exercent physiquement toutes les semaines leur métier en France. Donc
c'est non délocalisable.
Exactement. Vous avez des sportifs qui s'entraînent à l'étranger, qui sont français, mais s'entraînent à l'étranger pour optimiser fiscalement. Les footballeurs jouent physiquement en France. Et après, on en parlait justement, le tourisme, etc. Le football participe énormément au rayonnement de la France. On a eu un match exceptionnel hier, 7-2. C'est un score de tennis. Donc, j'ai envie de dire...
C'est de la diplomatie, quoi.
Ça fait partie du rayonnement de la France. Et je pense que c'est pas l'argent du contribuable français qui va payer Mbappé. Ça n'est pas l'argent du contribuable français qui va payer Mbappé. Point barre. On n'est pas en train de dire on va payer 600 millions d'euros le dirigeant d'EDF. Non, c'est un joueur de football qui va être payé par des investisseurs indépendants. Peu importe.
Mathias Bacino.
C'est pas juste un joueur de football, en fait. C'est un objet médiatique, c'est une entreprise, Kylian Mbappé. Donc c'est 630 millions d'euros. C'est pas, moi, je ne les perçois pas comme un salaire, je les perçois comme un revenu général en tant que quasiment qu'entreprise. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, avec Kylian Mbappé, c'est pas forcément l'argent qu'il gagne, mais c'est les valeurs qu'il porte et l'exemple qu'il donne à toute une partie de la jeunesse française qui en a bien besoin. Et donc ça, pour moi, ça vaut...
Vous l'aimez d'amour.
Ça vaut
plus que ça. C'est super.
Il faut quand même rappeler que s'il n'y avait pas les Qataris pour payer le salaire d'Mbappé, il serait déjà parti.
Ça, c'est ce que voulait dire Benhamda. Il
serait déjà parti au Real de Madrid et que donc c'est bien de cracher en permanence à la figure des Qataris.
Donc les Qataris payent les impôts en France.
De nous offrir quelqu'un qui contribue abondamment au bonheur de tous les amateurs de foot et aux finances publiques, accessoirement.
Pour l'instant.
C'est ça, Benhamda, vous voulez dire.
D'ailleurs, au Qatar, c'est clairement perçu de la sorte. Le pauvre Kylian Mbappé n'est qu'un pion dans un jeu géopolitique qui vise à discréditer le Qatar sur un certain nombre de points, notamment l'organisation de la Coupe du Monde. Et somme toute, il se trouve jeté en pâture. Encore une fois, c'est le point de vue vu de Doha. Il est jeté en pâture parce que c'est un élément qui peut contribuer à déstabiliser le Qatar dans ses relations régionales vis-à-vis des Émirats Arabes Unis, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et dans ses relations internationales. Donc finalement, l'histoire de qu'il gagne 5, 10 ou 150 millions n'est que périphérique.